Chaque mercredi à midi, Tendance Ouest reçoit celles et ceux qui font l'actualité. L'invité du mercredi, avec la rédaction de Tendance Ouest.
Bonjour à tous, l'invité du mercredi, comme chaque semaine, on va parler éducation aujourd'hui et même précisément du rôle des grands-parents dans l'éducation d'un enfant. Avec vous, Célia Levavasseur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre à la maternité du Belvédère à Mont-Saint-Aignan, autrice aussi avec des livres qui sont de vrais guides pour les parents chez Nathan. On avait par exemple Guide pour les jeunes parents qui ne veulent pas mourir d'épuisement, La Voie lactée aussi qui est un livre sur l'allaitement. Et le dernier en date s'appelle Grands-parents cool. Pourquoi avez-vous voulu vous intéresser aux grands-parents ?
Eh bien, parce que je passe mes consultations, notamment du mois de janvier, à entendre les parents se plaindre de ce qui s'est passé à Noël et des avis non sollicités de l'ensemble de la famille. Hein. Il y a bien sûr les tontons, les tatas, il n'y a pas que les grands-parents, mais quand même, Noël cristallise beaucoup les « et tu devrais faire ça » et « pourquoi tu fais ça ?» et « de mon temps, c'est ça et vous n'êtes pas mort » et vraiment, c'est n'importe quoi, la mode machin, la mode bidule, les enfants rois, les enfants tyrans, ils entendent tout. Et puis les grands-parents, comme ils sont soutenus par les autres, eh ben, ils se lâchent un peu et c'est très violent les consultations du mois de janvier.
Sur la forme, dans votre livre, on ne change pas une recette qui fonctionne, c'est très didactique, c'est 60 petits chapitres avec l'idée de donner un maximum d'informations concrètes, c'est les remettre à jour aussi les grands-parents sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on sait maintenant de l'éducation d'un enfant, du soin qu'il faut lui apporter.
Alors tout a changé, hein, donc c'est difficile d'être grand-parent aujourd'hui. Il y a eu un bond en avant dans les données des neurosciences. Avant, on n'y connaissait rien et on était sur Pasteur, donc on croyait qu'il fallait tout stériliser, récurer les bébés, le nez, les oreilles, le cordon, les fesses, enfin bon, et j'en passe. Et puis heureusement, on fait plein d'études et enfin, on s'intéresse au bébé. C'est quand même une science assez nouvelle et on découvre que le bébé... voit en couleur à la naissance, que le bébé, il a le sens moral. Enfin, il y a plein de choses qui changent. Et dans nos pratiques quotidiennes, non, on ne décalote plus les zizi des bébés, on ne met plus de tour de lit, on n'utilise plus de youpala, on met un siège auto dans la voiture, truc de dingue. Chose que nos grands-parents, mais ça n'existait même pas comme objet. Donc on ne peut pas leur reprocher.
Puis on apprend plein de choses sur les pleurs de décharge, le sucre, comment gérer les colères, la notion de punition aussi.
Ben oui, parce qu'on a longtemps cru que de punir quelqu'un, c'était bénéfique. Et puis on fait des études. Et les études ont montré que quand on punissait un enfant ou quand on valorisait en payant un enfant, eh bien ça n'apportait rien du tout. Quand on punit un enfant, ça lui apprend juste à mentir et à pas se faire gauler la prochaine fois, en gros. Et quand on paye un enfant pour dessiner, eh bien, il ne dessine plus spontanément, il ne dessine que s'il est payé. Donc, on le valorise lui-même. Voilà, sois fier de toi, c'est bien ce que tu as fait, qu'est-ce que tu en penses. Et il ne le fait pas pour nous faire plaisir.
On apprend plein de choses. Les grands-parents, il faut quand même le noter, peuvent avoir une place vraiment importante. On est content de les trouver hein, pour garder les enfants quand on est actif. C'est vrai qu'ils sont disponibles. Vous dites malgré tout, attention, c'est pas le même rôle. Peut-être qu'il faut, quand on est grands-parents, lâcher un peu l'autorité, profiter avant tout des bons moments.
Alors, on a vraiment besoin d'un village pour élever des enfants. Quand on regarde Rendez-vous à un terrain inconnu, on voit bien que tout le monde est autour des enfants et que les enfants sont partagés avec tout le monde. Et que nous sommes aujourd'hui les plus grands consommateurs d'antidépresseurs et de somnifères d'Europe. Donc, peut-être qu'il faut se dire, on n'a pas bien fait avec nos enfants. Alors, oui, on n'est pas mort, mais c'est pas terrible quand même. Et donc, on a besoin d'un village, on a besoin des grands-parents, des oncles et tantes, des voisins, voisines, des marins, marraines. Ils ont un rôle essentiel, donc vraiment merci à eux. Mais il y a une remise à niveau très sérieuse à faire, très très sérieuse à faire. Et donc c'est des grands-parents, c'est pas des parents. Donc il faut accepter de changer de place et c'est pas à eux d'éduquer l'enfant. Ils sont là pour suivre les consignes des parents, pour encourager les parents à devenir des bons parents. Parce que c'est quand même le rôle, et ça c'est un peu difficile pour les grands-parents de comprendre ça, ça reste des parents.
Ça, on le retrouve à plein de moments hein, dans votre livre, le côté où c'est aux grands-parents de s'adapter à l'éducation que veulent apporter les parents. Vous parlez d'ailleurs dès le début du livre de la relation belle-mère-belle-fille. Ça fait sourire, c'est pas un cliché. Vous dites que c'est une relation compliquée depuis toujours, de tout temps, toute religion, tout pays d'origine. Ça se complique encore à l'arrivée des petits-enfants.
Alors, la relation belle-mère-belle-fille... Hein, il y a la marâtre, hein, le mot est vraiment très très laid dans tous les dessins animés, dans toutes les fables, dans tous les contes. C'est que c'est pas aujourd'hui, hein, c'est pas le problème ne vient pas d'aujourd'hui. Moi, Personnellement, j'ai bien regardé la situation, écouté toutes mes patientes, mes amis, mes collègues, et j'en ai vraiment conclu que, comme aujourd'hui dans notre pays, c'est patriarcal, c'est les femmes qui font les décorations des maisons, c'est les femmes qui font les courses, c'est les femmes qui font à manger, c'est les femmes qui choisissent les vêtements des enfants, c'est les femmes qui éduquent les enfants, c'est les femmes qui mettent le rituel du soir. Et donc, résultat, la belle-mère, quand elle arrive chez sa belle-fille, elle est en terrain inconnu. Elle ne reconnaît rien. Alors que la mère qui vient chez sa fille, elle sait exactement ce qu'il y a dans le frigo. Elle sait exactement ce qu'il y aura dans l'armoire de l'enfant. Elle sait exactement ce qu'il faut qu'elle fasse. Ça va être les mêmes rituels. Ça va être les mêmes chansons. Ça va être les mêmes histoires. Et donc là, le conflit belle-mère-belle-fille, il explose avec les enfants. Parce que tant que c'était avec le conjoint-conjointe, ça allait à peu près, et encore, souvent au mariage, ça cristallise bien les problèmes, la façon de gérer l'argent, la façon de gérer la décoration. Une fois de plus, comme c'est la femme qui fait, c'est là que ça pète. Mais les enfants, on touche au nerf de la guerre, et donc là, les belles-mères ont beaucoup de mal à trouver leur place avec leur belle-fille, alors que la belle-mère, avec le gendre, n'a aucun problème.
Et vous dites aussi, d'ailleurs, on est plus enclin à faire des reproches à sa belle-fille qu'à son fils prodigue, un peu intouchable.
Intouchable, mais dans l'autre sens, c'est pareil. Quand c'est sa fille, on ne va pas reprocher quelque chose à sa fille, mais ça va être la faute du gendre. C'est à cause du gendre qu'elle ne part plus en voyage, qu'elle ne voit plus ses copines. Enfin, c'est évidemment humain de défendre sa progéniture, c'est la survie de l'espèce, et que tout est de la faute de l'autre. C'est jamais de la faute de son propre enfant, parce que c'est ses tripes. Donc c'est normal aussi, mais la belle-fille, elle prend tellement plus cher, puisque c'est elle qui éduque, c'est elle qui achète les vêtements, c'est elle qui achète la crème solaire ou pas, c'est elle qui achète la casquette ou pas, c'est pas le père qui pense à prendre la crème solaire, la casquette et les bouées dans le sac pour aller à la mer, hein.
D'un mot très rapidement, c'est à Levavasseur, il y a des thématiques aussi qui ont émergé tardivement, qui sont essentielles sur le consentement, sur la prévention des violences sexuelles. Là aussi, vous en parlez, vous abordez ces sujets.
Donc c'est le sujet qui dure depuis probablement des siècles, hein, puisque voilà, un enfant sur cinq va être abusé sexuellement par un proche autour de lui. Dans 80% des cas, cet enfant et les parents connaissent cette personne et ont confiance en lui ou elle. Donc c'est un fléau de notre société qui perdure, parce qu'on a des écrits depuis longtemps, c'est vraiment un phénomène qui perdure et ça se transmet de génération en génération. Et donc oui, c'est une urgence d'apprendre à notre enfant le consentement. Et pour ça, on n'oblige pas un enfant à faire des bisous, on n'oblige pas un enfant à monter sur les genoux, on ne fait pas des chatouilles si l'enfant il n'a pas envie.
On doit lui apprendre qu'il est propriétaire de son corps. Si je résume.
Et vraiment, de ne pas nettoyer les fesses ou le zizi ou tout ça, s'il est assez grand pour le faire.
Merci beaucoup, vraie mine d'informations ce livre, ça s'appelle Grands-parents cool chez Nathan, c'est à retrouver dans toutes les bonnes librairies comme on dit. Merci Célia Levavasseur, autrice et pédiatre à la maternité du Belvédère à Mont-Saint-Aignan. Interview à retrouver sur tendanceouest.com.
Retrouvez l'invité du mercredi en podcast sur tendanceouest.com
et vos plateformes préférées.